Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de deux agriculteurs sur le territoire de du pays du Coquelicot. Alors aujourd'hui, nous recevons Bruno Houck et Julien Chavat. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors Bruno, nous sommes aujourd'hui sur ton exploitation à Mahimaillé. Que cultives-tu ?
Du blé, des betteraves, des pommes de terre, du maïs et des salades en jeune pousse.
D'accord. Alors justement, la jeune pousse, c'est quoi pour toi ?
Jeune pousse, c'est en fin de compte tout ce qui est salade, donc épinards, batavia, feuilles de chêne, romaine rouge. Et en fin de compte, c'est de la salade qui est semée et qui se récolte à 10-12 cm. En fin de compte, c'est pour faire du mesclun. Ce qu'on voit dans les magasins, c'est du mesclun.
Alors le mesclun, c'est un...
C'est un mélange de petites salades.
D'accord. Et ces salades, on va les retrouver ensuite en sachet, prêtes à l'emploi. Monsieur Chavat, Julien, vous cultivez un autre produit dans une commune qui est toute proche. Vous êtes implanté où ?
Sur la commune de Sarton, juste à côté de Doulan. Donc nous faisons des potimarrons, des butternuts... du chou blanc, du chou rouge et du chou frisé. Donc voilà.
Voilà, une culture diversifiée. Merci. Alors, pour enchaîner un petit peu, pour montrer un petit peu votre savoir-faire, Julien, on va peut-être commencer avec toi. La culture du chou, c'est venu depuis combien de temps ?
Le chou, ça, c'est la deuxième année. Donc c'est venu parce que tout simplement un copain en cultivait et à force d'y aller, ça m'a tout simplement plu et puis un jour on s'est lancé quoi.
D'accord. Et là aujourd'hui vous vivez de cette production.
Tout à fait.
Alors ça commence quand cette production de choux ? Est-ce qu'on en mange juste à l'automne ou c'est une culture qu'on va retrouver sur l'année ?
La période de plantation, elle commence fin février, début mars. Et on en cultive toute l'année en stockant 12 mois sur 12, quasiment. Puis après, les courges, c'est 5 à 6 mois de l'année.
D'accord. Alors, on est en pleine Halloween préparation, là. Est-ce que tu vois une recrudescence chaque année de ta production de courges, tout ce qui concerne ici ce produit mythique pour l'automne ?
Vis-à-vis des potimarrons, pas vraiment, parce que c'est une autre variété pour Halloween. Mais après, les années se suivent et ne se ressemblent pas du tout. Parce qu'on, des moments, ça part en direct donc fin août. Et en novembre, on n'en a plus. Et là, cette année, quasiment rien n'est parti. Et on espère vendre un petit peu plus cet hiver, quoi.
D'accord. Ok. Alors, on va revenir avec toi, Bruno. Donc, la jeune pousse, le mesclun, on en mange tous, on adore, c'est facile, pas besoin de laver la salade, on a juste à ouvrir son petit sachet. La prochaine fois que je l'ouvrirai, je penserai tout particulièrement à toi. Mais tu cultives aussi les épinards. Alors, les épinards, ça fait pas rêver quand même. Hein. On a tous été torturés par nos parents, il fallait manger les épinards. Néanmoins, cette culture d'épinards, Comment ça se passe ? Comment tu cultives les épinards dans tes champs ? Sous quelle forme on va les retrouver ?
En fin de compte, moi c'est du semis. Donc c'est déjà, parce que souvent quand on parle de salade, c'est du repiquage. Chez moi c'est du semis. Donc en fin de compte, les épinards c'est semé et c'est récolté à peu près à 4 semaines. Donc c'est des tout petits, c'est de la jeune pousse d'épinards, donc c'est tout petit. D'où le goût plus tendre que des épinards qu'on a l'habitude de manger en branche.
Là, ici, il faut juste 4 semaines entre le semis
et la récolte,
par tes soins. Donc ici, tu récoltes à Mahimaillé, tu as des cultures. Ça se présente comment, ces semis ? Est-ce qu'on sème tout un champ, hein ? Comment tu t'organises ?
Pour en avoir toutes les semaines à la même date, au même stade, je sème à peu près 1 hectare par semaine. Et du mois de mai au mois de août, pour récolter du mois de mai au mois de octobre.
D'accord. Donc là ici, c'est une culture qui est très spécifique sur une période de l'année. Pourquoi avoir fait ce choix de ces jeunes pousses dans tes champs ? Comme tu l'as dit, tu cultives les produits traditionnels qu'on va retrouver, hein, les céréales. Pourquoi ce choix de jeunes pousses ?
Bah, j'ai toujours été attiré par les cultures spécialisées. Avant, je faisais du tabac, donc c'est déjà une culture spécialisée. Et puis... le tabac, ben, ça perdait un peu la cote. Donc,
Comment ça, ça perdait la cote, le tabac? Parce qu'on fume toujours. Hein.
Ouais, enfin après, après une histoire de subvention, tout ça. Bon. Voilà. Donc, j'ai envie de changer. Et l'usine de Fleurette s'installait à Cambrai et cherchait des producteurs. D'accord. Donc, je me suis lancé là-dedans.
Oui, parce qu'effectivement, dans le secteur, il y a peu d'agriculteurs qui cultivent ces jeunes pousses d'épinards.
Bah, la jeune pousse, on doit être deux producteurs dans la France, donc...
Effectivement,
on n'est pas nombreux.
Bon, tu es très modeste, parce qu'effectivement, la plupart des salades, des jeunes pousses, pardon, qu'on va avoir, notamment en épinards, si on les ouvre, par la marque qu'on a citée tout à l'heure, effectivement, c'est la tienne qu'on va pouvoir manger. Donc ça, donc, ça se récolte dans les champs. Est-ce que c'est une culture particulière, la jeune pousse d'épinards, contrairement aux céréales qu'on va avoir dans les champs, là ? Bah, quelles sont les contraintes que tu as à cultiver ce type de produit ?
Bah, les contraintes, c'est que déjà, les semis, c'est à chaque fois une étape difficile. En fin de compte, on n'a pas le droit à l'erreur dans les semis, c'est-à-dire qu'il faut un produit archi-homogène, donc il faut des belles levées, enfin, c'est un peu ça qui est compliqué. Et puis, il n'y a pas de désherbage, pas de produits phyto, parce que c'est un produit qui pousse très vite. Et en délai avant récolte, on peut pas, quoi. Il n'y a aucun produit qu'on puisse mettre 3 jours avant de récolter.
D'accord.
Donc, on ne met pas de produit. Donc, c'est le désherbage manuel. Et après, s'il y a un insecte, c'est un produit bio, mais qui ne marche pas, quoi.
Ah donc, alors, est-ce que c'est une culture bio, toi ? Est-ce qu'on peut appeler ?
Non, parce que ma parcelle, elle n'est pas en bio. Mais sinon, le produit, oui, aujourd'hui, il est bio.
Qu'est-ce que tu appelles une parcelle bio, Bruno ?
Bah, si je veux faire du bio, il faut que ma parcelle soit considérée comme une parcelle bio, c'est-à-dire pendant 10 ans, je mets, ou 10 ans ou plus, je ne mets pas de produit, je ne mets rien. Donc, tandis que là, mes parcelles, moi, c'est des échanges. Donc, l'agriculteur qui reprend ses parcelles, après, il fait ce qu'il veut.
D'accord. Donc, quelque part, on peut, avec ce que tu viens de nous dire, effectivement, on a l'impression quand même de manger des produits bio. Même si la parcelle n'est pas déclarée bio, il n'y a pas de produits pesticides ou autres. La qualité de tes produits, elle est due aux conditions de semis pour pouvoir justement éviter d'avoir des mauvaises herbes ou des plantes. Et c'est vrai que parfois, quand on va manger, on voit des petits impacts. Mais ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de produit de traitement qui ont, abîmé le produit. Donc aujourd'hui, tu as combien d'hectares en jeunes pousses, par exemple ?
J'ai une surface de 11 hectares, mais on fait 3 semis. C'est-à-dire que la parcelle, elle est ressemée 2 fois.
D'accord. Et toi, ça t'oblige à travailler différemment sur la culture des jeunes pousses ? Est-ce que tu as des horaires de travail qui sont similaires à un céréalier, par exemple ?
Bah, pour avoir un produit frais, il faut récolter de bonne heure.
Donc, alors, c'est quoi de bonheur pour un paysan ?
Bon, c'est 5-6 heures, donc c'est pas un problème. Pour avoir fini la récolte vers 10h30, 11h. Quoi.
Et pourquoi il faut avoir fini à 10h30 la récolte ?
Parce qu'après, il fait trop chaud et que le produit ramollit. Donc, pour avoir un produit frais, c'est quand la rosée est là. Et en plus, on doit le refroidir tout de suite, parce que c'est un produit périssable.
D'accord. Et donc, de ce fait-là, toi, tu vas récolter tôt. Plus il fait chaud l'été, plus tu vas partir dans les champs tôt, de ce fait, pour capter la rosée. Hein, parce qu'on peut voir de nombreux paysans comme ça qui partent très tôt travailler. Donc, c'est pour récupérer un produit dans lequel il y a la rosée. Et tu le mets au froid pour que le produit parte où après ? Il ne part pas directement le jour de la coupe chez l'industriel qui va mettre en sachet les produits.
Mais une fois récolté, on doit le refroidir tout de suite. On a 3 heures pour le refroidir. Mais nous, au bout d'une heure, il est déjà au frigo. C'est un frigo qui refroidit le produit à 3 degrés. Il met à peu près 20 minutes. Mm-hmm. Donc le produit, il est bloqué, en fin de compte. Et il part chez l'industriel le lendemain matin.
D'accord. Donc là, c'est un produit hyper frais, quoi.
Oui.
Coupé le matin, livré directement, et ensuite...
Et chez eux, en fin de compte, il est travaillé dans la journée et au magasin la nuit suivante.
Donc à J+2, quasiment, le produit, ouais, on va le retrouver dans les rayons des grandes surfaces.
Mmh, c'est ça.
Pour une durée de vie, après, de combien de temps? Parce que le... dans un sachet, c'est combien de temps ça
se passe? Je pense que c'est 5 jours, normalement, Enfin, ce qui est marqué sous le sachet, après, tout dépend du produit. Hein, mais...
D'accord. Oui. Donc là, ici, on a des produits en moins de J+2, on dira, qui arrivent dans l'assiette des consommateurs pour pouvoir être justement prêts à consommer. OK. Monsieur Chabat, quant à vous, alors le chou, vous l'avez dit, et les courges, hein, je n'oublie pas les courges, on a des produits qui sont, eux, récoltés toute l'année, vous les stockez, et en fonction de la demande, le produit s'écoule. Vous le vendez à qui, ces produits? Est-ce que vous vendez aux particuliers, par exemple?
Non, pas aux particuliers, mais toutes les grandes surfaces, toutes les grandes surfaces qui existent. Après, on stocke les courges. Il y en a une bonne partie qui partent quand même au moment de la récolte, les 15 jours, 3 semaines qui suivent la récolte. Et les choux partent le jour même de la récolte. Donc ils partent maximum à 14 heures. Ils sont récoltés le matin et partent le jour même à 14-15 heures.
Et ces choux vont être vendus sous quelle forme? Est-ce qu'ils sont vendus bruts? Est-ce qu'ils sont préparés en sachet? Est-ce que vous savez ça?
Ils sont vendus tels quels. Ça part du champ et ça arrive au supermarché. Enfin, il n'y a eu aucune transformation entre les deux.
Donc vous êtes dans un délai encore plus court que pour les jeunes pousses, plus ou moins. C'est du jour au lendemain, le produit arrive...
24-48 heures.
D'accord. Et quel est parmi tous les produits que vous vendez, quel est le produit qui se vend le mieux, qui est le plus demandé en France? Qu'est-ce que le consommateur français aime manger?
Tout dépend de la période... Mais c'est vrai que le chou, il y a quand même une forte demande, surtout l'été, par rapport à ce qu'on pourrait croire. Mais le chou rouge, ça se mange vraiment toute l'année.
D'accord. Et plutôt chaud, froid, vous savez, non?
L'été, plutôt en salade, et l'hiver, sous différentes formes.
D'accord. Donc là, ici, on a plutôt le chou. Vous le vendez brut, donc il n'est pas travaillé. Pour les courges, alors, parmi toutes les courges que vous faites, entre les potimarrons, les butternuts,
c'est ça.
Il y en a d'autres encore?
Non.
Est-ce qu'il y en a une qui se vend mieux qu'une autre?
Le butternut, c'est vrai que ça plaît vraiment à tout le monde. Mais c'est très difficile quand même à cultiver.
Expliquez-nous un petit peu, quelles sont les difficultés de cultiver la butternut?
Des problèmes d'insectes principalement et de désherbage, parce que le seul produit qui était encore homologué ne l'est plus à partir de cette année.
D'accord.
Donc c'est pareil, c'est pas bio, mais c'est beaucoup de désherbage mécanique et manuel.
D'accord. Et comment vous désherbez alors manuellement? Ce sont des personnes qui se déploient et qui désherbent à la main, ou vous avez vous dites que vous avez un désherbage mécanique aussi, mais comment ça se procède?
On a des bineuses derrière le tracteur, on passe 3-4 fois par an, et plus binage manuel, donc des petites binettes nos employés, quoi.
Donc à hauteur, avec une binette, avec un manche relativement long, parce qu'on se voit mal faire des champs de plusieurs hectares à quatre pattes en train de désherber. Alors on va poser la même question à Bruno pour ces jeunes pousses. Comment vous désherbez, vous, Bruno, même si vous avez semé très, très serré, comment vous procédez?
Alors moi, c'est à la main. Il n'y a pas d'outil. En fin de compte, j'ai une bineuse qui doit marcher, mais bon, elle n'est pas au top. Donc, parce que c'est vraiment petit. Donc, pour ne pas déchausser la salade, il faut vraiment les conditions idéales. On ne les a jamais trop. Donc, c'est essentiellement à la main. Et pas d'outils, donc c'est juste seulement à la main, avec, en faisant une petite pince, on enlève les mauvaises herbes. Donc, c'est à quatre pattes.
À quatre pattes ?
À quatre pattes, ou j'ai un lit de désherbage. C'est-à-dire, il y a deux planches où on est allongé. On est au sud de la planche et puis on désherbe. Ça aide, c'est moins dur, mais bon, après, il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. Donc,
D'accord. Donc, vous avez plusieurs outils. Vous vous êtes adapté, en fait, aux employés que vous avez sur la ferme pour pouvoir désherber au mieux. OK. Alors, on va peut-être poser la question ici. Est-ce que vous mangez les fruits de votre production, Bruno ?
Oh, je mange que ça. Oui. Bien sûr. La salade, oui, j'en mange dans le champ, j'en mange chez moi. Enfin,
alors, un vrai lapin, quoi.
Oui. Non, mais voilà, je peux la manger tant que j'en veux, puisque je sais ce que je mets dessus, il n'y a pas de produit, donc
puis pour le coup,
aucun problème.
Vous avez un produit extrêmement frais.
Oui.
Récolté. Ben,
c'est un peu ça le problème, c'est que je connais le goût du frais. Donc, dans les magasins, j'achète jamais de salade parce que je ne retrouve pas le goût du frais.
Ah oui, d'accord. Bah, c'est vrai que vous avez la chance d'avoir des produits qui sont du champ à votre assiette.
C'est ça.
Donc là, ici, vous mangez la salade. Bon, en salade, ça. Et les épinards, vous les mangez plutôt crus ou plutôt cuits, hein, Bruno ?
Bah, les deux, en fin de compte. Je les mange crus avec un mélange dans les salades. Donc, enfin, moi, j'aime bien. Après, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais c'est vraiment de la jeune pousse, donc c'est tendre. Hein. Et ça n'a vraiment pas le goût d'épinard. Et après, je les fais cuire au beurre plein de recettes.
Recettes simples, mais voilà, comme vous dites, un bon produit, ça fait toute la différence dans la cuisine. Et quant à vous, Julien, comment vous aimez manger vos choux ou vos courges ?
Principalement en soupe ou... Enfin, je parle pour les
courges.
Bah, même les choux comme les courges, principalement en soupe, mais après, un bon butternut farci ou la purée, enfin, c'est vraiment très très bon.
Je vois un sourire qui illumine votre visage rien qu'en parlant des butternut farcis. Effectivement, c'est vrai que c'est non pas un produit qui est nouveau, mais il y a beaucoup de façons de cuisiner le butternut chaud, que ce soit rôti au four ou dans les veloutés qu'on va avoir. Notamment, c'est très réconfortant pour l'hiver d'avoir ces veloutés tout chauds avec de bons produits que vous avez pu produire. Quel est votre rapport avec les conditions climatiques ? On dit aujourd'hui que le temps change, c'est difficile de produire. Quelles sont les adaptations que vous avez dû faire sur votre exploitation pour justement préserver votre production, Julien ?
Malheureusement, l'irrigation devient quasiment indispensable. Avec les aléas climatiques, il ne pleut pas pendant 2 ou 3 mois et d'un seul coup on va avoir un mois de pluie et puis après plus rien. Donc au moment de la plantation, c'est l'irrigation, elle est quasiment indispensable. Et puis après, le fait de biner les légumes, ça permet, donc comme disaient les anciens, un binage vaut 2 arrosages, et ça c'est vraiment vrai quoi.
Voilà. Donc là ici, la nécessité pour vous d'irriguer, mais ça rend les conditions de travail encore plus difficiles parce que l'irrigation, c'est toute la journée où il faut déplacer l'enrouleur. Enfin, il y a des contraintes qui sont liées à l'irrigation.
On déplace déjà de une, on irrigue que la nuit pour limiter le stress de la plante et donc un bon développement. Et donc l'histoire des évaporations aussi, parce qu'en plein soleil, comme on peut voir l'été, on perd jusque 30% d'eau.
Donc c'est plutôt une attitude responsable dans le sens où ça évite le gaspillage de l'eau comme on peut trop souvent voir dans les champs.
C'est un geste qui paraît normal mais qui n'est pas respecté par... par oui. tout le monde, quoi.
Il y a des cultures, effectivement, qui consomment beaucoup d'eau. Et on voit souvent l'été, c'est vrai, hein, des champs qui sont arrosés en plein soleil, où on se demande si vraiment la plante va pouvoir en bah, bénéficier.
Des champs comme des particuliers. Il n'y a pas non plus que les agriculteurs qui font des mauvais gestes. Enfin, l'eau, c'est la matière première, donc il faut la respecter, quoi.
Ah bah,
sans eau, on n'a rien.
C'est être humble, je dirais, face aux éléments, parce qu'effectivement, l'eau, il faut la préserver. Et on voit que vous avez à cœur de justement être respectueux de cette eau qui n'est pas illimitée, on le voit. Hein, et il faut savoir gérer. Donc, vous, c'est ce principe d'irriguer. Mais ça suppose que vous leviez plusieurs fois la nuit pour déplacer l'irrigation. Il y a quand même des conditions de travail qui sont particulièrement difficiles.
Bah après, ça fait partie du travail, on le fait parce que c'est normal.
Bah vous faites ça, vous nous dites ça avec un grand sourire, mais on voit que vous êtes passionné dans cette culture et ça fait plaisir de voir que, voilà, on se plaint trop souvent de dire « Oh là là, c'est toujours trop cher dans les grandes surfaces, les produits qu'on va acheter », mais néanmoins, on voit bien qu'il y a eu beaucoup de travail derrière pour pouvoir produire un butternut, un chou de qualité qui va revenir dans notre assiette.
Bah, contrairement à ce qu'on pourrait penser, tout se fait à la main. À part les choux, c'est planté à la main, mais avec une machine. C'est repiqué. La récolte, tout se fait à la main. Et les potimarrons, enfin les courges, toute la récolte est faite manuellement. Et on doit tout relaver aussi.
D'accord. Et pourquoi c'est coupé manuellement, récolté manuellement? Il n'y a pas de machine?
Non, pas...
Ça n'existe pas encore pour les choux?
Pour les choux, si, mais il y a un problème de coût aussi sur le produit.
D'accord. Donc là, c'est pour des raisons économiques que vous n'avez pas opté pour la machine.
Pour les courges,
il n'existe pas.
Il n'existe pas encore de machine. Et puis, c'est vraiment compliqué parce que vis-à-vis du pédoncule, on est obligé de passer au sécateur et faire courge par courge.
Et pourquoi? Pourquoi vous devez couper courge par courge alors?
Parce que tout simplement, on a, donc le pédoncule ne doit pas dépasser 2 à 3 cm de longueur pour qu'il puisse rentrer dans les cagettes.
Ah, c'est encore des conditions qu'on vous impose de produire un produit standard. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites d'ailleurs des produits qui ne sont pas standards, bah, qui sont moches, quoi. Certaines grandes surfaces parlent de produits moches qui sont vendus à un prix moindre.
Bah, y a une partie qui reste au champ, des produits qui sont vraiment abîmés, on les laisse au champ, et donc tout ce qui ne rentre pas dans les catégories sont valorisés par la soupe.
Et donc vous vendez une partie qui va être pour produire des soupes,
qui va être transformée en soupe, oui.
Donc vous avez encore une autre
débouché.
Autre part.
Ah, okay. C'est ça.
D'accord. Et qui sont pas les mêmes que les distributeurs
Du tout, c'est des industriels.
D'accord. Donc, bah oui, ça permet de valoriser les produits jusqu'au...
Ça permet tout simplement de ne pas gâcher le produit.
Bah oui, c'est une bonne soupe, il faut de bons produits. C'est vrai que bah, c'est bien de penser à cela. Et vous, Bruno, pardon. Qu'est-ce que, justement, ces produits... Vous nous avez parlé des contraintes hein, de récolter tôt le matin à la rosée. Est-ce qu'il y a d'autres... conditions, par exemple les tailles des pousses, là on voyait le pédoncule pour les courges. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes, vous, la taille de vos salades ou de vos épinards, ça doit pas dépasser quelle dimension?
Bah, les contraintes, c'est en fin de compte, l'industriel veut un produit de entre 12 et 15 cm. Après, il y a une largeur à respecter aussi. Donc, c'est ça le challenge de toutes les semaines, c'est d'avoir un produit identique toutes les semaines. Donc voilà,
pas évident pour un produit qui pousse
non.
comme ça dans les champs d'avoir quelque chose de standard chaque semaine.
Surtout que on sème au mois de mai et puis au mois d'août, donc les températures sont pas les mêmes, le nombre d'heures de soleil sont pas différentes, donc à chaque fois c'est différent. Et donc on joue sur les variétés qui poussent plus ou moins vite. Donc on joue là-dessus.
Et il y a des variétés qui poussent mieux dans les Hauts-de-France qu'ailleurs ?
Ah bah oui, oui, oui. On a chacun nos variétés. Après, il y a des variétés standards que tout le monde utilise, mais des variétés de printemps ou variétés d'hiver sont différentes suivant les régions.
Alors, dans votre exploitation, est-ce que vous avez une variété qui fait la différence ? Une variété qui est peut-être plus résistante
De toute façon, on choisit nos variétés par rapport à notre microclimat, on va dire, et puis après, par rapport aux résistances maladies. Donc, au mildiou, cercosporiose, tout ça, quoi. Donc
des maladies qui sont typiques aux plantes. Donc ouais. Là, vous les avez citées pour faire le mesclun.
Oui.
Je pense à une salade qui vient d'Italie, là.
La roquette.
Non. Voilà, oui. C'est ça, la roquette. La roquette, elle pousse bien par ici ?
Chez moi, j'en fais pas, mais elle pousse très bien par ici. Le problème, c'est que les altises, c'est des petits insectes, ils adorent ça. Et pour faire de la roquette, il faut traiter à peu près tous les 3-4 jours.
D'accord.
Et moi, traiter, c'est pas mon truc. Donc, j'ai arrêté d'en faire à cause de ça.
Donc, vous avez préféré faire la culture de jeunes pousses de salade,
ouais,
qui sont plus résistantes afin d'éliminer tous les traitements et ouais, fournir presque un produit bio dans le sens où il n'y a ouais, pas de pesticides qui sont mis, seul le désherbage.
Okay. Moi, c'est ma politique de travailler comme ça. Après, quand on voit arriver des insectes, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met un produit qui tue tout le monde ? Ou est-ce qu'on les laisse ? Donc, souvent, on se dit, on les laisse, on verra bien. Donc, jusqu'alors, je touche du singe, mais j'ai pas eu de gros soucis par rapport à ça. Donc
c'est un pari que vous faites sur ouais, les invasions d'insectes qu'il peut y avoir, ouais, sachant qu'après, l'industriel qui rachète votre production peut éventuellement refuser ces produits qui sont impropres à la consommation.
Oui.
Enfin, impropres. Oui. Pas conforme à la qualité des charges.
L'industriel, s'il voit une chenille ou même une coccinelle, c'est refus. Alors qu'une coccinelle, tout le monde aime bien, mais c'est
mais
comme ça.
Pas dans la salade, quoi.
C'est ça.
D'accord. D'ailleurs, on a posé tout à l'heure à Julien la question. Qu'est-ce que vous faites des jeunes pousses de salade qui seraient trop grandes, qui ne rentrent pas dans les normes ?
On les jette.
Vous les jetez ?
Ah oui, on n'a pas le choix, ça ne conserve pas.
D'accord.
C'est trop grand, donc on en mange, c'est tout.
Donc et vous en mangez davantage
oui,
encore ?
Oui, voilà.
Donc là, ici, oui, effectivement, la salade, c'est un produit qui est plus fragile.
Ouais,
donc il
n'y
a pas possibilité de redonner, de le revaloriser. Mmh. Il est donc détruit ou il est laissé dans le champ, sur la planche ?
Il est détruit dans le champ.
D'accord.
Oui.
Voilà. Et il y a d'autres, donc vous parliez des insectes, des ravageurs, vous parliez des conditions climatiques. Est-ce qu'il y a des animaux qui viennent perturber les parcelles ?
Oui, on a du gibier, il y a les lapins, ils adorent ça, les lièvres, la salade. Donc on clôture tout le champ, en fin de compte, on met une clôture électrique. Mais bon, la clôture électrique, elle reste 6 mois, donc les animaux, ils s'y habituent. Ils arrivent à passer quand même. Mais le gros problème, c'est les mouettes. Et les oiseaux, les corbeaux, parce qu'eux, ils ramènent des bactéries.
Ah,
ça, c'est un gros problème.
Parce qu'on est quand même loin de la mer, là, à vol d'oiseaux.
Oui, mais il y a des bassins dans les sucreries, pas loin, donc ils restent là, oui.
Donc, invasion de mouettes sur le secteur
C'est à nous éviter ça, donc on met des canons, on met des effaroucheurs, on met tout ça, oui.
Ouais, mais les effaroucheurs, ça fait du bruit, ça aussi.
Non, c'est des oiseaux qu'on met.
Ah, oui.
Des oiseaux.
Non,
une imitation des oiseaux en papier.
Je pensais pas les effaroucheurs, c'est les canons, là, qui,
ouais,
qui ont
les canons,
des
sons. Oui, mais on a la chance d'être loin des maisons, donc ça
d'accord.
Va.
D'accord. Ouais. Donc vous arrivez à faire fuir de cette manière.
Ah oui, oui, oui.
Pour conclure, alors Bruno, vous êtes un agriculteur passionné. Est-ce que vous voyez encore combien de temps produire la jeune pousse de salade quand on voit les contraintes que ça impose, même si vous le faites avec plaisir, on voit que se lever toujours très tôt pour pouvoir cultiver. Et puis vous ne faites pas que ça. Vous ne faites pas que la culture de jeune pousse. Vous avez d'autres productions. Comment vous envisagez l'avenir ? Qu'est-ce que vous pourriez faire ?
Moi, j'ai 64 ans, donc je vais pas refaire 20 ans de salade, ça c'est sûr.
Si vous étiez un jeune paysan, vous pourriez vous relancer dans quoi encore ? Est-ce que vous voyez continuer dans la jeune pousse ou bien...
Ah oui, si, oui, 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 sans problème.
Et
oui, parce que c'est épanouissant, c'est intéressant, c'est techniquement, enfin c'est...
Alors justement, voilà, qu'est-ce qui vous passionne autant ? Parce que, alors, Je pense pas qu'on l'ait dit, mais ça fait combien de temps que vous cultivez la jeune pousse, vous ?
Ça va faire 22 ans.
Ok, donc ouais. Qu'est-ce qui, après 22 ans, continue toujours à vous motiver à produire cela ?
Parce que c'est un challenge toutes les semaines. Donc, on n'est jamais sûr du résultat et c'est jamais, jamais, jamais une journée pareille. On arrive le matin à 5 heures, c'est jamais, jamais pareil. Enfin, je suppose que...
On va demander ça, monsieur, toi, Julien aussi. Donc là, ici, c'est le challenge. Ouais. En fait, vous ne c'est pas ennuyeux, le fait d'être dans les champs, à la fraîche, le matin, à l'arrosée, pour récolter.
Déjà, on n'a jamais la même lumière. Un coup, il y a du soleil, un coup, il n'y en a pas. Un coup, on voit enlever le soleil. Un coup, on le voit une heure après. Un coup, il y a du brouillard. Enfin, c'est magnifique, on a une chance inouïe.
Donc là, le plaisir d'être dehors et de se répondre à tous les challenges, les défis. Bah, merci beaucoup Bruno. Julien, quant à vous, qu'est-ce qui vous motive dans cette culture du chou ? Et est-ce que vous envisagez d'autres, une autre variété de produits ?
Bah, ce qui est motivant, c'est de voir le travail qu'on fait tous les jours et qui évolue, et voir la plante s'épanouir. Bon, après, il y a des échecs et il y a des succès aussi. Ça fait partie du travail.
Bah, vous êtes encore tout jeune, vous.
C'est ça.
Vous avez l'expérience et vous relevez les défis. On vous voit passionné aussi par cette... Il y a combien d'années déjà vous produisez ?
C'est la quatrième année.
Donc, vous rentrez. Et c'est la quatrième année, vous êtes installé il y a 4 ans ou pas ?
Non, c'est la... Donc, j'ai repris l'exploitation de mon père donc, au printemps. Mais j'y suis depuis petit, quoi.
Ouais, vous avez baigné dedans, quoi. C'est comme ça. Tout fils de paysan, vous avez
dans
été...
Dans un système céréalier qui a été développé en maraîchage, quoi.
Et c'est vous qui avez fait le choix du maraîchage ?
C'est ça.
D'accord, donc c'est votre petite touche sur l'exploitation familiale ?
C'est ça.
Voilà, bah, oui, parce que c'est vrai que... Pourquoi se diriger vers le maraîchage plutôt que la culture céréalière ? Parce qu'ici, on baigne dans les pommes de terre et les céréales. Pourquoi ce choix ?
Tout simplement parce que j'aime bien ça.
Et c'est une culture comme Bruno, technique, où il faut régler, il y a des défis.
Comme dans toutes les cultures.
Mais est-ce que c'est financièrement plus intéressant ou quel est le challenge, en fait ? Pourquoi ne pas rester la culture des céréales, les grands champs, les grandes parcelles ?
Bah, tout simplement parce que j'ai une toute petite exploitation. Ça permet de diversifiant, ça permet d'être viable.
Et mieux valoriser le produit. En fait.
C'est ça.
D'accord. Et une autre culture prochainement ou c'est bon là, pour les courges et les choux.
On verra par la suite.
Ah, mais je vois que vous avez des idées. Bon, bah, c'est très bien. Bah, écoutez, Julien et Bruno, je vous remercie pour cette troisième émission autour des arts de la table. Vous êtes sur Radio Campus Amiens 87.7. N'hésitez pas à nous retrouver. Merci.
Une émission en partenariat avec la communauté de communes du Pays du Coquelicot, du FRAC Picardie et de Radio Campus Amiens. À très vite pour le quatrième épisode du Zèbre passe à table.